Jeudi 18 juillet 2013. Matin. J'ai acheté 3 journaux avant de monter dans le train ce matin. Meghan a disparu depuis 4 jours et 5 nuits, et l'affaire commence à faire du bruit. Fidèle à sa réputation de presse de caniveau, le Daily Mail a réussi à dégoter des photos de Meghan en bikini, mais surtout, a réalisé le portrait le plus complet que j'ai lu jusqu'à présent. Née Meghan Mills à Rochester en 1984, elle a déménagé avec ses parents quand elle avait 10 ans. C'était une enfant intelligente, extravertie, douée pour le dessin et le chant. Une camarade d'école dit d'elle qu'elle était assez marrante, super jolie et plutôt délurée. Ce dernier trait semble avoir été exacerbé par le décès de son frère, Ben, dont elle était très proche. Il a été tué dans un accident de moto quand il avait 19 ans et elle 15. Elle a fugué 3 jours après l'enterrement. Elle a été arrêtée 2 fois, la première pour vol, la seconde pour racolage. Sa relation avec ses parents ne s'en est jamais remise, d'après le Mail. Ses 2 parents sont décédés il y a quelques années, sans avoir pu se réconcilier avec leur fille. En lisant cela, je me sens terriblement triste pour Meghan. Je me rends compte qu'après tout, elle n'est pas si différente de moi. Abandonnée et seule, elle aussi. À 16 ans, elle s'est installée avec un petit ami qui possédait une maison près du village de Holkham, dans le nord du Norfolk. Sa camarade ajoute « Il était plus âgé, musicien ou quelque chose dans le genre. Il prenait de la drogue. On n'a plus trop vu Meghan après qu'ils se sont mis ensemble. » L'article ne fournit pas le nom du petit ami, alors ils ne l'ont probablement pas retrouvé. Ou alors il n'existe pas. L'ami en question a peut-être inventé ça pour voir son nom dans les journaux. L'article fait une ellipse de plusieurs années. Soudain, Meghan a 24 ans. Elle vit à Londres et travaille comme serveuse dans un restaurant du nord de la capitale. C'est là qu'elle rencontre Scott Hipwell, un expert conseil en informatique qui connaît bien le gérant du restaurant. Scott et Meghan se plaisent et, après un début de relation passionnée, ils se marient lorsqu'elle a 25 ans et lui 30. Figurent aussi d'autres citations, dont une de Tara Epstein, la fameuse amie chez qui Meghan devait aller le soir de sa disparition. Elle dit que Meghan était « une fille adorable, insouciante » et qu'elle semblait très heureuse. « Scott ne lui aurait jamais fait de mal », ajoute Tara. « Il l'aime énormément. » Le moindre mot qui sort de la bouche de Tara est un cliché. Mais la phrase qui m'intéresse a été prononcée par un artiste qui a exposé ses œuvres dans la galerie que Meghan a gérée quelque temps, un certain Rajesh Gujral. Il dit que Meghan est une femme merveilleuse, futée, belle et drôle, une personne très réservée avec le cœur sur la main. À mon avis, Rajesh a le béguin. La dernière citation est celle d'un homme, David Clark, un ancien collègue de Scott qui dit « Meg et Scott forment un couple génial ». Ils sont très heureux ensemble et très amoureux. Il y a aussi quelques bribes d'informations sur l'enquête, mais les déclarations de la police ne vont pas bien loin. Les inspecteurs ont interrogé un certain nombre de témoins et étudié diverses pistes d'investigation. Le seul commentaire intéressant est celui du capitaine Gaskill, qui confirme que 2 hommes aident la police dans son enquête. Je suis presque sûre que cela signifie qu'ils sont suspects. L'un d'entre eux est forcément Scott. Est-ce que l'autre pourrait être A? Est-ce que Rajesh est A? J'étais tellement absorbée par les journaux que je n'ai pas fait attention au trajet autant qu'à l'accoutumée. J'ai l'impression que je viens à peine de m'asseoir quand je sens le train ralentir pour son arrêt habituel au feu de signalisation. J'aperçois des gens dans le jardin de Scott. 2 policiers en uniforme au niveau de la porte de derrière. Ma tête se met à tourner. Est-ce qu'ils ont découvert quelque chose? Est-ce qu'ils l'ont retrouvé? Est-ce qu'il y a un cadavre enterré dans le jardin ou dissimulé sous le parquet? Je n'arrête pas de penser aux vêtements empilés au bord des rails, ce qui est idiot parce que je les avais repérés avant la disparition de Meghan. Et de toute façon, si quelqu'un lui a fait du mal, ce n'est pas Scott. Impossible. Il est fou amoureux d'elle. C'est ce que tout le monde dit. La lumière n'est pas très bonne aujourd'hui. Le temps a changé. Le ciel est gris, menaçant. Je n'arrive pas à voir dans la maison, à distinguer ce qui se passe. C'est trop difficile. Je ne supporte pas de rester à l'extérieur. Je suis impliquée dans cette histoire à présent, pour le meilleur et pour le pire. Il faut que je sache ce qui se passe. Au moins, j'ai un plan. D'abord, il faut que je découvre s'il existe un moyen de m'aider à retrouver ce qui s'est passé samedi soir. À la bibliothèque, je vais faire des recherches pour savoir si l'hypnose pourrait me rendre mes souvenirs, s'il est réellement possible de recouvrer ce temps perdu. Ensuite, et je suis persuadée que c'est important, parce que je ne pense pas que la police m'ait cru quand je leur ai parlé de l'amant de Megan, il faut que j'arrive à entrer en contact avec Scott Hipwell. Il faut que je lui dise. Il a le droit de savoir. Soir. Le train est bondé de gens trempés par la pluie. De la vapeur s'échappe de leurs vêtements pour se condenser sur les vitres, et l'odeur des corps, des parfums et des lessives flotte au-dessus des têtes encore humides. Les nuages qui menaçaient ce matin se sont faits plus lourds et noirs au fil de la journée, jusqu'à éclater ce soir, telle une mousson, juste à l'heure de pointe, alors que les travailleurs quittaient leurs bureaux, créant des embouteillages monstres sur les routes et aux entrées des stations de métro, où des gens s'agglutinent pour ouvrir ou fermer leurs parapluies. Moi, je n'ai pas de parapluie, et je suis trempée jusqu'aux os. J'ai l'impression qu'on m'a renversé un seau d'eau sur la tête. Mon pantalon en coton me colle aux cuisses et ma chemise bleue délavée est devenue beaucoup trop transparente. J'ai couru tout le long du chemin entre la bibliothèque et la station de métro, en serrant mon sac à main contre ma poitrine pour me cacher du mieux que je pouvais. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai trouvé ça drôle. Il y a quelque chose de ridicule à se retrouver piégé par la pluie. Et, arrivé en haut de Gray's Inn Road, je riais tellement fort que j'avais du mal à reprendre mon souffle. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ri ainsi. Je ne ris plus. Dès que je me suis trouvé un siège, j'ai pris mon téléphone pour voir s'il y avait des nouvelles concernant Megan, et c'est ce que je craignais. Un homme de 35 ans a été placé en garde à vue au poste de police de Whitney pour y être interrogé au sujet de la disparition de Megan Hipwell, qui n'est pas réapparue à son domicile depuis samedi soir. C'est Scott, j'en suis sûre. Je n'ai plus qu'à espérer qu'il a lu mon email avant d'être arrêté, parce qu'une garde à vue, c'est sérieux. Ça veut dire qu'il pense que c'est lui. Même si, évidemment, reste la question de savoir de quoi on l'accuse. Peut-être qu'il n'est rien arrivé du tout, et que Megan va parfaitement bien. De temps en temps surgit dans mon esprit l'idée que Megan est en vie, en pleine forme. Qu'elle est assise sur un balcon avec vue sur la mer, les pieds sur la rambarde en fer, une boisson fraîche posée près de son coude. Cette image d'elle ainsi me ravit et me déçoit à la fois. Et je m'en veux tout de suite de ce second sentiment. Je ne lui souhaite aucun mal, même si j'étais très en colère quand je l'ai vue tromper Scott, quand elle a brisé mon illusion du couple parfait. Non, c'est que j'ai l'impression de faire partie d'un mystère, d'être connectée. Je ne suis plus juste la fille du train, qui fait ses allers et retours sans raison et sans but. Je veux que Megan revienne saine et sauve. Vraiment. Mais pas tout de suite. J'ai envoyé un email à Scott ce matin. Je n'ai pas eu de mal à trouver son adresse. J'ai cherché son nom sur Google et je suis tombée sur le site www.shipwellconsulting.co.uk où il propose une gamme complète de services Internet, d'expertise et de création de cloud pour les entreprises comme pour les organismes à but non lucratif. J'ai su que c'était lui parce que l'adresse postale de sa société était celle de son domicile. J'ai envoyé un court message à l'adresse fournie sur le site. Cher Scott, je m'appelle Rachel Watson. Vous ne me connaissez pas. Je voudrais vous parler de votre femme. Je ne dispose pas d'informations sur l'endroit où elle se trouve. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Mais je pense être en possession d'informations qui pourraient vous être utiles. Si vous ne souhaitez pas me parler, je le comprendrai tout à fait, mais dans le cas contraire, vous pouvez me répondre à cette adresse. Cordialement, Rachel Watson. De toute façon, même s'il l'avait lu, je ne sais pas s'il aurait répondu. À sa place, je ne crois pas que je l'aurais fait. Comme la police, il penserait que je suis une cinglée ou une fille bizarre qui a entendu parler de cette affaire dans les journaux. Maintenant, je ne saurai jamais. S'il a été arrêté, il n'aura peut-être plus jamais l'occasion de voir mon message. S'il a été arrêté, les seules personnes qui pourront le lire, ce seront les inspecteurs de police, ce qui ne sera pas bon pour moi. Mais il fallait bien que j'essaie. Et maintenant je suis coincée, désespérée. La foule de gens dans le train m'empêche de voir de leur côté des rails, de mon côté. Mais, même s'il n'y avait personne, il pleut si fort que je n'arriverai pas à voir au-delà du grillage. Je me demande si des preuves sont effacées par la pluie, en ce moment même. Si des indices cruciaux vont disparaître à jamais. Des taches de sang, des traces de pas, des mégots de cigarettes et leurs échantillons d'ADN. J'ai tellement envie d'un verre que je peux presque sentir le goût du vin sur ma langue. J'arrive à imaginer en détail ce que je ressentirai quand l'alcool pénétrera dans mon sang et me fera tourner la tête. J'en ai envie et, en même temps, je n'en ai pas envie parce que, si je ne bois pas aujourd'hui, ça fera 3 jours. Et je n'arrive pas à me souvenir de la dernière fois où je suis restée sobre 3 jours d'affilée. Un autre goût a surgi dans ma bouche. Un entêtement lointain. À une époque, j'avais de la volonté. Je pouvais courir 10 kilomètres avant le petit déjeuner et tenir des semaines entières avec 1300 calories par jour. Tom disait que c'était une des choses qu'il aimait chez moi. Ma ténacité, ma force. Je me souviens d'une de nos disputes, à la toute fin, quand notre couple était au plus bas. Il s'était énervé contre moi. « Qu'est-ce qui t'arrive, Rachel ? » avait-il craché. « Quand es-tu devenue aussi faible ?» Je ne sais pas. Je ne sais pas où est passée cette force. Je ne me souviens pas de l'avoir perdue. Je crois que, avec le temps, elle a été érodée par la vie, le simple fait de vivre, jusqu'à disparaître. Au feu de signalisation juste avant Whitney, côté Londres, le train s'arrête brutalement et les freins crissent de façon inquiétante. La voiture s'emplit de murmures d'excuses tandis que les passagers debout trébuchent, se cognent les uns aux autres et se marchent sur les pieds. Je relève la tête et, là, j'aperçois l'homme de samedi soir. L'homme roux, celui qui m'a aidé quand je suis tombée. Ses yeux très bleus sont fixés sur moi et j'ai tellement peur que j'en fais tomber mon téléphone. Je le ramasse, puis je me redresse et je le cherche à nouveau, discrètement. J'étudie le reste des passagers, j'essuie de mon coude la condensation sur la vitre pour observer le paysage, puis enfin je me retourne vers lui. Il me sourit, la tête légèrement inclinée sur le côté. Je sens la chaleur me monter au visage. Je ne sais pas comment réagir, car j'ignore ce que ce sourire signifie. Est-ce un « Tiens, bonjour, je me souviens de vous » ou est-ce plutôt « Ah, revoilà l'excité de l'autre soir, celle qui est tombée dans l'escalier et m'a gueulé dessus. » Ou est-ce encore autre chose ? Je ne sais pas. Mais tandis que j'y réfléchis, j'ai l'impression de retrouver une bribe de souvenir, un son qui colle à l'image de moi glissant sur les marches. C'est sa voix qui me dit « Tout va bien, ma belle ?» Je me tourne à nouveau vers la vitre. Je sens ses yeux posés sur moi. J'ai envie de me cacher, de disparaître. Le train s'ébranle et en quelques secondes, il est entré en gare de Whitney. La bousculade s'amorce entre ceux qui cherchent un siège et ceux qui rangent leur Kindle ou leur iPad pour s'apprêter à descendre. Je relève la tête et le soulagement m'envahit. Il ne me regarde plus. Il descend, lui aussi. Soudain, je comprends que je suis complètement idiote. Je ferais mieux de sortir et de le suivre, d'aller lui parler. Il pourrait me dire ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Il pourrait au moins m'aider à combler certains trous. Je me lève. J'hésite. Je sais qu'il est déjà trop tard. Les portes sont sur le point de se refermer et je suis au milieu de la voiture. Je n'arriverai jamais à me frayer un chemin jusqu'à la sortie à temps. Le signal sonore retentit et les portes se ferment. Encore debout, je me retourne pour regarder par la fenêtre tandis que le train redémarre. Il se tient au bord du quai, l'homme de samedi soir. Et il me suit des yeux quand je passe à côté de lui. Plus le train se rapproche d'Ashbury, plus je m'en veux. J'hésite même à changer de train à Northcote pour repartir à Whitney et le chercher. C'est une idée ridicule, évidemment, et bien trop risquée si on tient compte du fait que, hier, Gaskill m'a demandé de ne pas venir dans le quartier. Mais je suis découragée. Je commence à désespérer de jamais me souvenir de ce qui s'est passé samedi. Quelques heures de recherche sur Internet cet après-midi même si elles étaient loin d'être exhaustives, ont confirmé ce que je soupçonnais. L'hypnothérapie parvient rarement à retrouver des heures perdues lors d'un trou noir de ce type, car, comme le suggérait le livre du docteur, on ne crée pas de souvenirs dans ces moments-là. Il n'y a rien à retrouver. Il y aura, à jamais, un vide dans l'histoire de ma vie.